La méditation et du pape François. Oui. Les disciples ont vu Jésus ressuscité, mais ensuite, ils ont pu penser, il est parti. Il vaut mieux pour nous qu'il s'en aille, il nous a laissé. Nous l'avons vu, mais c'était comme un rêve. Et c'était à ses disciples, fatigués et inféconds, et déçus, que Jésus dit « Jetez donc les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et le résultat fut une pêche incroyablement abondante, celle de la fin. C'est Jean, alors, qui s'est adressé à Pierre. Il a vu que c'était le Seigneur. La présence de Jésus ressuscité transforme chaque chose. Même l'obscurité est vaincue par la lumière. L'inutilité du travail devient à nouveau fructueux et prometteur. Les sentiments de fatigue et d'abandon est marqué du sceau qu'il a laissé en nous pour un nouvel élan, avec cette certitude qu'il habite avec nous, qu'il est avec nous. Et ce sont ces sentiments-là qui habitent l'Église, la communauté du ressuscité. Nous sommes tous marqués par la résurrection. C'est la troisième fois que nous célébrons la Pâque. Troisième dimanche, c'est le troisième millénaire, et aujourd'hui en plus, c'est le cinquième mois du mois de Marie, le premier de la fête de la transformation du monde par Saint Joseph. C'est le 1er mai qu'en fait. Que le monde, la matière, la création est transformée. Et le patron de la transformation du monde, c'est Saint Joseph, patron du travail. Le travail, en grec, en latin, c'est la transformation de la matière. Saint Joseph, dans l'océan immaculé, cristallin, semblable à du cristal et du diamant de Marie, dont il est le principe, et puis l'époux, et elle l'est poussée en lui, donne à la résurrection une force de pénétration qui déborde l'esprit, l'âme. Et je me rappelle que, d'ailleurs, on a lu ces jours-ci, c'était hier, on a lu ces jours-ci que Jésus avait dit au chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean, « C'est ma chair, je suis le pain de la vie, celui qui me mange, se nourrit de moi, ne connaîtra pas la mort. » Et quand les disciples disent « Mais ça va pas », Jésus répond « Il a répondu, mais mes paroles sont esprit. C'est celui qui mange ma chair et boit mon sang. Mes paroles sont esprit et elles sont vie. Mais dans la résurrection, Jésus ne dit plus, et nous ne disons plus non plus, nous, bah, la résurrection, c'est spirituel. Non, non. La résurrection n'est pas quelque chose de spirituel, puisqu'elle a pris la matière vivante qui est en nous. Et on lit l'Apocalypse maintenant, aujourd'hui aussi. sur le trône, l'agneau de Dieu est rentré corporellement. L'agneau de Dieu est plus que la résurrection. L'agneau de Dieu, c'est plus que les 24 vieillards. Hein, 8, 8, 8. Les 24, le Verbe qui prend toute la matière pour ressusciter, les 24 vieillards, et les 4 vivants, son incarnation ressuscitée, se prosterne devant le trône, parce que dans le trône, il y a l'agneau. Et l'agneau, comme on dit dans le Gloria chaque dimanche, c'est Dieu lui-même. Il est consubstantiel à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. L'agneau est consubstantiel. La matière vivante, à travers l'agneau de Dieu, la blessure du cœur, n'est pas que spirituelle. Elle est aussi incarnée et elle est aussi incréée. Il est consubstantiel au Père, les trois. Et en traversant donc la matière vivante, en Marie et Joseph, en premier, c'est ça le mystère, la réalité, la croix glorieuse. Il a voulu que le Saint-Esprit déposé à l'intérieur de Marie et embrasé de la lumière, et de fêter ça aujourd'hui, le 1er mai, avec Saint-Joseph dans le mois de Marie, au troisième millénaire, et pour la troisième fois. C'est quelque chose, c'est un rappel, c'est une mémoire. L'Église dit, faites le Christ, en répétant Saint Paul, dit, il nous a demandé de vivre ça dans sa mémoire. Dans sa mémoire. C'est-à-dire, dans ce que Dieu a fait, lorsqu'il était à l'intérieur de lui-même, et que voyant lui, voyant la disponibilité surnaturelle, accomplie, chrétienne, du mariage de Marie et Joseph dans la transformation. Il y avait toutes les ingrédients, si je puis dire, les dispositions surnaturelles, finales, inscrites dans l'oméga de la créateur de Dieu dans le principe, pour venir prendre chair, pour venir prendre, se saisir lui-même, en lui-même, à l'intérieur de Dieu qu'il est lui-même, dans l'amour incréé, absolu et éternel qu'il est lui-même, dans la lumière. Et en faisant ça, il a pris donc chair. Et en prenant chair, il a pris possession de toute la matière vivante, dans la sagesse de la croix. Il a pris chair glorieusement, dans l'incarnation, c'est ça, les quatre vivants de l'Apocalypse. Et il est devenu un adorateur de Dieu, alors qu'il est Dieu lui-même. L'amour de Dieu éternel et incréé, en saisissant ainsi la mémoire, c'est-à-dire l'origine de l'humanité de Jésus, dans la croix glorieuse, qui est la sienne, est devenu lumière. L'amour est devenu lumière. Et l'amour devenu lumière est devenu vivant. Et il nous a marqué de son sceau, parce qu'avant de rentrer dans la croix glorieuse, il a marqué de son sceau les apôtres. Vous savez, le baptême, le sacerdoce, mais la confirmation aussi, dans le souffle du Saint-Esprit, sont un sceau indélébile, indélébile, à l'intérieur de notre chair, de notre sang et de notre âme. Ça marque un caractère. Comme dit le Concile de Trente, un caractère indélébile qui est indissoluble même si on devait aller en enfer et qui demeure à jamais. Nous sommes marqués triplement du sceau et la marque du sceau. C'est ce que dit la foi catholique dans le Concile de Trente et le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II précise que c'est pour la parousie. Pourquoi ? Parce que la doctrine de l'Église va toujours un peu plus loin. On est marqué du sceau. Et le sceau du Dieu vivant, l'Apocalypse nous le rappelle. Il se réalise dans la mémoire. C'est-à-dire dans cet embrasement de la matière vivante qui produit le oui de la nature humaine de Jésus dans son origine, en notre humanité, à l'intérieur de Marie, et à partir de la matière vivante, brûlante, extasiée dans la tour de Mar de Saint-Joseph, dans sa sponsalité avec l'Immaculée Conception. Il a marqué de son sceau avant d'être crucifié, un jour avant. Mais ça a commencé puisque la gloire de sa crucifixion a été rendue présente dans l'hostie, a été rendue présente aussi dans le sacerdoce, le caractère, le sceau intellépique du sacerdoce a pénétré à l'intérieur des 12. Faites ceci dans ma mémoire. Nous, les catholiques, on oublie le catéchisme. Mais l'ordination sacerdotale des apôtres s'est réalisée avant que le prêtre ne devienne prêtre. Le sacerdoce du Christ n'était pas encore inscrit dans sa chair crucifiée et glorifiée. Qu'il a institué ce sceau, il les a marqués du sceau du sacerdoce éternel, assis à la droite du Père. Ils ont été marqués du sceau de l'agneau de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, ayant réalisé l'ordination sacerdotale de Jean et des autres, dit le Fils est glorifié. Désormais tout est accompli. Et il partit au mont des Oliviers. Jésus se trouve donc sur la croix, anéanti dans sa mémoire, dans son origine, dans son principe. Et vous savez, je suis un petit peu sensible à ça, je ne sais pas pourquoi, ces temps-ci. La couronne d'épines avait pénétré son œil gauche, il était devenu aveugle. Et l'œil droit aussi était blessé, mais il était rempli de sang. Il a vu, aperçu, deviné Marie et Jean au pied de la croix, qu'au moment où il s'était vraiment complètement approché, quand il faisait nuit noire sur toute la terre. Et c'est là qu'il a dit au sceau du Dieu vivant, qui était dans Marie, le baptême de sa conception, et au sceau sacerdotal qui était en Jean, de se mélanger, de s'unir l'un et l'autre pour faire un seul sceau. Une fois que c'était fait, il pouvait partir et créer l'univers de la croix glorieuse. Et il a donné son souffle. Il a soufflé dans cette unité indivisible d'amour, de lumière et de vie. Et ce souffle a remplacé sa vie divine dans son humanité, crucifiée, glorifiée sur la terre. Il a dit, je ne mangerai plus jamais du fruit de la vie, jusqu'à l'au-delà de la fin du monde. Je ne mangerai plus jamais. Il a soufflé sur eux. Et ce souffle, c'est celui du Dieu vivant, c'est l'Esprit Saint, a permis à Marie d'intégrer immédiatement dans le caractère indélébile du sacerdoce éternel de Jésus, non encore accompli, non encore réalisé. De sorte que l'Église et Marie ont anticipé et ont vécu de la grâce du sacerdoce éternel victimal de l'apocalypse de la fin, avant que Jésus ne pénètre au fond des cieux. L'Église et Marie anticipent. Dieu donne tout avant même qu'il les réalise. La grâce chrétienne de la parousie, mais aussi dans l'Immaculée Conception et dans les apôtres, est une grâce de miséricorde prévenante. Parce que Dieu ne veut rien faire sans l'Église, sans que ce soit un amour de réciprocité, pas seulement une réciprocité comme ça, une réciprocité substantiellement divine. Il a donné le monde divin de Dieu avant, pendant et après. C'est ce qui a permis d'ailleurs à ce souffle dans son âme séparée de venir s'engloutir dans la responsabilité de Marie par le sacerdoce présent. C'est toujours par la foi que Dieu réalise la grâce, par la foi de l'Église. Et par la foi de l'Église, il y a une cause méritoire qui s'est introduite dans cette première Pentecôte au pied de la croix et qui a fait qu'il a pu s'engloutir à l'intérieur de la mort en Saint-Joseph, qu'il attendait avec la mesure et la vastitude de la parousie annoncée par le prophète Daniel et puis annoncé pour nous aujourd'hui par l'Apocalypse. Ça faisait 1290 jours que Joseph était là, avec la grâce rédemptrice réellement présente dans le caractère qui était en lui. Parce que la sponsalité en lui et en Marie, c'est la seule fois d'ailleurs que ça s'est fait, était un sacrement qui réalisait ce qu'il signifiait. Parce que quand il est mort, si je puis dire, il était encore dans le temps. C'est Jésus qui a fait que la mort a disparu du temps. C'est la croix glorieuse qui a fait ça. Il s'est investi dans le monde de la mort, des ténèbres. Il s'est englouti dans Saint-Joseph parce qu'il fallait qu'il y ait les cinq caractères divins pour permettre précisément une grâce d'amour incréé dans le créé, de lumière incréée dans et de vie à créer dans la vie créée, de ces cinq caractères, pour qu'il y ait une assomption, une Pentecôte en Marie, Joseph, et une assomption sous le souffle du Saint-Esprit. Marie, Joseph et Jean ont été assumés. Et on le sait très bien qu'il était mort déjà depuis presque une heure, une demi-heure. Il s'est fait en silence d'environ une demi-heure. Et il était mort quand le sceau, le sixième et septième sceau, c'est-à-dire le sixième dans lui et le sixième dans Marie, la transverbération de sa sponsalité, et le septième en lui, dans la gloire, envahit son âme, déséparée et déchirée. D'une manière telle qu'une cause méritoire était produite dans la maternité divine de Marie. Et nous osons dire aujourd'hui, avec le Saint-Père, avec la paternité divine de Joseph. Elle était méritoire. Le sacrement de baptême, Immaculée Conception, le sacrement du sacerdoce éternel, vivant et véritable, était présent avant sa mort. C'est quand même quelque chose, et de quelque chose de très important, de savoir que, du coup, à cause de cela, le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont assumé cette trinité divine, surnaturelle, participée de l'Église, de l'Immaculée Conception et du sacerdoce. Pas seulement Joannique et apostolique. Les trois en même temps, dans le sceau, d'où est sorti l'eau, le sang et l'Esprit Saint, une demi-heure après. C'est une assomption La super venue du Saint-Esprit est venue dans cette trinité sponsale et sacerdotale, victimale d'amour éternel, dans sa présence réelle. On oublie quelquefois l'amour éternel, la lumière éternelle et la vie éternelle et la liberté éternelle, voilà la mémoire qu'il y a dans le sacrement que nous avons reçu et que nous touchons. Ce marque du sceau. Et en tout cas, ce qui s'est passé au pied de la croix, avant la mise au tombeau, c'est la création dans la maternité divine de Marie et la paternité divine sponsale qu'elle a avec Joseph et le sacerdoce éternel du Christ. Elle a connu à ce moment-là, nous avons connu à ce moment-là, et c'est la foi catholique. La fournaise ardente de l'amour qui brûle, de l'amour du cœur sacré cœur de Jésus, accompli dès le premier instant de sa vie humaine, qui marque du sceau le principe créateur de Dieu et son accomplissement dans le septième sceau d'Apocalypse. Les deux se rendent un dans la mémoire de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que ce que l'ange Gabriel avait dit à Marie, de transformer en Saint-Joseph dans l'au-delà de son unité sponsale avec lui, comme l'a expliqué le pape Jean-Paul II dans sa doctrine merveilleuse sur la signification du corps originel de l'homme, de la femme. Quand il a assumé, il a pris de quoi souffrir, de quoi faire disparaître la mort, les ténèbres, le péché, toute souffrance, toute douleur. Dans le premier instant de sa vie humaine, il a pris ce qui appartenait à l'unité sponsale, pas à Marie, pas à Joseph, mais à ce qui en débordait dans la signification sponsale de leur corps primordial et accompli. C'est ça qu'il a pris. Marqué de son sceau intérieur de Dieu vivant par la foi méritoire dans laquelle il s'est englouti pour faire ce travail, cette transformation de la matière avec l'Église de Jésus. L'Église de Jésus, mariage de Marie-Joseph sont indissolubles. Si les gens savaient que le mariage chrétien est indissoluble à cause de ça, indissoluble. Et Marie, à ce moment-là, l'ange Gabriel lui avait dit, mais comment cela va-t-il s'opérer, se réaliser? Elle sait bien qu'elle n'est qu'un instrument, mais qu'elle ne fait rien d'elle-même, sauf sous le souffle du Saint-Esprit, peut-être, mais elle n'a pas encore reçu le sceau. Alors l'ange lui dit, mais c'est le Saint-Esprit qui va supervenir, superveniette, in te, dans toi. Il y aura la supervenue du Saint-Esprit. Superveniette, in te, du dedans de toi, par diffusion. Pas par infusion, mais par diffusion. C'est par diffusion que Dieu crée l'âme à partir de rien, dans le Saint-Dessein. C'est pas une infusion de l'âme, non. C'est une diffusion. Le Saint-Esprit superviendra du dedans de toi, et aussitôt en même temps, puisque tu ne peux pas séparer l'amour éternel, la liberté incréée de Dieu et dans la lumière de l'époux, le Père. Et du Saint-Esprit, les trois sont une seule amour, une seule volonté. Concile de Constantinople. En Dieu, il y a un seul amour. Il y a trois personnes, mais en Dieu, il y a un seul amour. Une seule volonté, un cré, qui est amour. Il n'y a pas quatre volontés d'amour en Dieu. dans le Christ, dans le Père, dans le Fils et dans le Saint-Esprit. Non. Et donc au pied de la croix, sous le souffle du Saint-Esprit, l'annonce du dernier souffle de Jésus dans, et l'annonce que son sacerdoce fait à travers les sacrements de l'Église jusqu'à la fin, elle l'entend dans sa sponsalité avec Joseph. Les trois ensemble, Joseph est encore dans le temps, hein, n'oubliez pas, nous n'oublions pas que Abraham, Moïse, Adam sont encore dans le temps, dans l'Hadès, ils attendent encore la venue du Rédempteur. Mais à l'instant de la mort, il y a un silence d'environ une demi-heure, tout a été suspendu, même la nuit. Et il fallait le monde angélique aussi. C'est ce que dit l'Église dans la fête du 14 septembre, la croix glorieuse. Et il fallait que tous rentrent comme ça dans le monde et précèdent le Christ, une fois que son âme séparée, déchirée en deux, dans son union hypostatique déchirée, une fois que son âme s'est laissée remplir par la médiation de la foi, Marie et Joseph. Joseph est encore dans la foi et dans le temps. Marie aussi, Jean aussi. Et ils s'engloutissent leur foi dans le caractère éternel, le caractère indélébile de leur sacrement, qui diffuse à partir du moment où il y a la charité divine à l'état pur, à partir de là, qui diffuse de quoi ? Produire une grâce méritoire de la création, du miracle des trois éléments et la venue du monde angélique glorieux qui vient s'engloutir et précéder le Christ dans la mort, dans le monde de la mort. Et ceux qui disaient « Ouvrez toutes grandes vos portes au Christ, n'ayez pas peur. » Mais le premier que le Christ est venu étreindre, c'est Saint Joseph. Parce qu'il est inséparable de Marie et de Jean, dans lequel il s'est inscrit pour disparaître à leurs yeux. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, sinon le Saint-Esprit ne pourra pas venir en vous. Et là, Marie a vécu quelque chose, Jean aussi, mais mystérieusement, une tardéma, un sommeil silencieux, un sommeil mystérieux, une mort un réel qu'on appelle la transverbération, qui avait été annoncé par le dernier Nachi d'Israël à la présentation de Jésus au temple. Elle a été assumée à ce moment-là, en raison de cette conjonction, trois en un en trois, de manière à ce qu'elle devienne, comme ça s'était produit, l'ange Gabriel lui avait dit, une nouvelle obombration. C'est pour ça qu'il y a eu le sacrement visible, pour le faire comprendre, de l'obombration de la nuit sur toute la terre. Il y a eu l'obombration de la nuit totale de la foi en elle, une obombration de la toute-puissance, une obombration toute-puissante sur elle, qui l'a ramassée au premier instant de sa conception, l'immaculée conception. Il l'a ramassée à l'intérieur de Dieu, la créant dans son immaculée conception, elle a été assumée, assomption, dans l'instant, là, à ce moment-là. Et du coup, à l'intérieur de Dieu, dans le monde incréé, de l'unique volonté d'amour, elle a laissé Dieu réaliser son œuvre de Pentecôte, crucifié. Saint-Esprit a fait partie de sa mémoire d'Immaculée Conception. Elle a été assumée. Il y a eu une assomption, un peu comme à l'incarnation. Il y a eu une assomption. Alors c'est bien qu'elle a été assumée dans l'assomption, prise par le Père, obombrée, supervenue du Saint-Esprit. Et Dieu, dans l'éternité de son éternité vivante d'amour et de liberté incréée éternelle de Dieu, est venu créer à l'intérieur de Marie l'incarnation. Jésus. Et Jésus, il n'a pas été créé à partir du temps. Il a été créé à partir de l'éternité, puisque c'est lui, on dit bien, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père et au Saint-Esprit, consubstantiel. Tout ça, c'est des choses que nous savons tous par cœur, parce que nous sommes catholiques depuis toujours, comme on dit. Hein? Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus a donné son dernier souffle. Il a fait cela, puis ensuite il a donné son dernier souffle. Cette brise légère qui laisse rafraîchir, macharer. Macharer, c'est un terme hébreu. Il veut dire caresser d'amour, de manière sensible, l'intérieur du cœur, l'intérieur du sang, l'intérieur de la chair des hommes. Nous sommes macharisés dans cette demi-heure extraordinaire, à la fois angélique, c'est la croix glorieuse, à la fois sponsale, c'est avec cette macharisation qu'il peut réaliser en Marie pour faire cette assomption de l'heure de la croix, quand il va paraître l'eau, le sang et l'Esprit Saint. Et Marie, donc, est assumée à ce moment-là avec Joseph, comme pour l'incarnation, mais cette fois-ci avec les sacrements de l'Église, le sacerdoce, par exemple, l'Eucharistie. Ça a été la confirmation du principe créateur de Dieu et de l'amour de Dieu en lui-même. Ces cinq sacrements sont présents là. Et Marie l'a tellement assumé dans tous les sacrements, et c'est pour ça qu'elle dit oui. Hein. Jamais Marie n'a dit oui à cet amour donné de cette manière-là par Dieu au pied de la croix. Son oui, dans l'assomption qu'elle réalisait, combien de temps a duré cette suspension dans l'assomption de Marie, ça, je ne saurais pas vous le dire, je ne l'ai pas trouvé dans l'Écriture, mais suffisamment pour que Dieu crée, à partir de Marie, la divinité toute pure, dans la croix glorieuse de l'âme de Jésus séparée, l'âme de Jésus déchirée. Elle a engendré cette union hypostatique déchirée avec Dieu le Père, en Dieu le Père, et avec la supervenue du Saint-Esprit, où elle s'est laissée saisir, parce que le dernier souffle de Jésus, c'est le souffle de sa divinité. Et le souffle de sa divinité, c'est le Saint-Esprit. Ceux qui ne vont pas jusque-là ne sont pas rentrés dans la vie chrétienne, parce que celui qui n'a pas reçu dans la croix de Jésus le souffle de la Pentecôte, du Saint-Esprit, c'est qu'il n'a pas été jusqu'au bout de sa foi méritoire. Il n'a pas été jusqu'au bout de la vie, la liberté divine, victorieuse, glorieuse et bénie. De l'Église qui s'épanouit dans le Nazareth glorieux, Noël glorieux, du 5e et du 6e saut d'Apocalypse. La Jérusalem nouvelle, où nous entrons librement maintenant. Nous entrons librement, immaculés. Libre de toute entrave, dès maintenant, avant que cela n'arrive. On le sait bien, en ces jours, dans le nouvel Israël de Dieu, qu'une grâce méritoire doit jaillir à l'intérieur du cœur de l'Église, adapté à la Jérusalem, affiné à la Jérusalem, immaculée et dernière du 5e saut de l'Apocalypse et du 6e saut. Les 1000 ans, dans le monde nouveau, mis en place et institué par le Saint-Père. Alors évidemment, ah oui, on peut entendre le brouhaha du démon qui commence à sentir qu'il s'est trompé. Néron peut vous faire brûler Rome, la source jusqu'à la fin du monde et de la vie de la vie de, dans l'humanité. Et bien sûr, il peut susciter Néron, il peut susciter... Il y a deux évêques d'ailleurs, hein, l'évêque de Poznan et l'évêque de Cracovie, mais moi je l'ai entendu de l'évêque de Varsovie, qui maintenant est décédé, parce que Roser, j'ai entendu sa bouche, on a parlé. Bien sûr, que la Babylone des Gaules va devenir le trône de Lucifer. C'est ce qui s'est réalisé il y a une semaine. La Babylone, dans l'Apocalypse, on le sait, doit être entièrement détruite par le feu. Et c'est une miséricorde que la justice embrase la miséricorde de Dieu. Jésus a dû disparaître pour que la miséricorde de Dieu soit méritoire dans l'Église. Et le souffle dans la résurrection et obtienne de l'Église vivant de la maternité divine de Marie, et aujourd'hui je peux dire, on peut dire de la paternité eucharistique et divine de Saint Joseph et de leur unité responsable glorieux, obtienne une grâce méritoire pour la résurrection. Marie est mère de la résurrection, pas seule, hein. Le Christ nous a sauvés, il s'est incarné, pas seul. Dans son incarnation, le Père, l'Époux est là. Qui me voit le Père, le Saint-Esprit est là. Ils ont emporté les trois dans l'incarnation du Christ, dans sa résurrection. Aussi, en raison de la maternité divine de Marie. Parce que le temps est engolfé à l'intérieur de... en dehors de ce monde cosmique. Ex tu cosmo était, dit l'Apocalypse. Ex tu cosmo, en dehors de ce monde cosmique, et à l'intérieur du trône, dans ce qui est consubstantiel au Père, au Fils, au Saint-Esprit, l'agneau de Dieu. Et ça, vous avez là, du coup, la première lecture d'aujourd'hui, l'Apocalypse. La création tout entière est obligée de chanter louange, gloire et honneur. Même ceux qui, tous les instants présents de notre univers, tout ce qui est dans la mer, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans la terre et tout ce qui est même dans la mort de l'enfer, éternellement ceux qui sont en enfer, même eux-mêmes, doivent et font, et le font, heureusement pour eux, écrit louange, gloire, honneur à l'agneau de Dieu. Bien sûr, ceux qui sont au ciel et qui font partie de la lumière incréée, de la vision béatifique, pour glorifier le Père comme étant eux-mêmes participation à la consubstantialité de l'agneau de Dieu avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est-à-dire nous, dans la résurrection. Eux, ils disent aussi sagesse, amour, adoration, ce qu'ils ne font pas en enfer. En enfer, ils disent louange. Ah oui, louange. Honneur. Ils ont intérêt à faire ça parce que sinon, non, c'est pas intérêt, c'est pas la question. Tout le monde est obligé de reconnaître. Mais évidemment, je sais bien que le tartare, c'est chaud. Oui. Mais ils n'ont pas la sagesse parce qu'ils ne peuvent pas savourer. Ils ne peuvent pas savourer la paix délicieuse, des délices du Dieu lui-même en eux. Alors, ils ne disent pas sagesse, honneur. Oui, honneur, gloire et louange, mais gloire, ben oui, c'est l'amour de Dieu est victorieux de tout, c'est vrai. À tel point que, bon, c'est vrai que tout ce qui est insupportable, mais totalement insupportable, Dieu l'a pris en lui dans la croix glorieuse pour le supprimer. Dieu a fait miséricorde aussi aux âmes damnées et aux démons. Ce qui explique d'ailleurs toute sa passion. Mais sa passion s'est inscrite à l'intérieur de l'agneau. Et la consubstantialité, c'est-à-dire le fait que l'union hypostatique de Jésus pénètre à l'intérieur du trône, et ouvre à l'intérieur de la résurrection un espace de liberté pour rentrer à l'intérieur de ce qui est dans les délices éternels et incréés du Père et du Saint-Esprit. Il y a une voie libre qui s'ouvre, qui est plus que la résurrection. Cette voie libre est ouverte parce que l'Église de la fin va vivre comme cause méritoire au milieu de Babylone. Alors on le sait bien, les évêques de Cracovie, les évêques de Poznan disent, voilà, il y a eu bien des scélérats sur la terre, l'évêque de Poznan ces jours-ci. Mais celui qui est monté sur le trône de France, d'une vers Israël de Dieu, est le pire qui ait jamais existé. Il y a eu des possessions. Mais celui qui est monté sur le trône de France, alors, Église de Dieu, célébrez la messe, confessez-vous, et dites l'exorcisme, pour que le démon s'écarte, et que vienne le monde nouveau. Eh bien, écoutez, c'est l'Église qui parle. Vous savez, dans les Midrash rabbiniques, dans les 613 préceptes, pardon, il est écrit quand deux témoignent. Ils sont deux à avoir dit ça. Dans l'épiscopat, dans la succession apostolique. La rédemption peut s'accomplir. Alors, c'est notre mission maintenant, dans la Pentecôte qui est la nôtre, et qui peut élargir ces espaces intérieurs dans notre conception retrouvée, que nous pouvons trouver la grâce méritoire donnée gratuitement avec les enfants non nés sous l'autel et à l'intérieur de l'autel. Pour avoir la grâce méritoire de l'ouverture des temps. Au milieu d'une Babylone, qui du coup doit être anéantie. Et ce sera pas seulement justice, ce sera une miséricorde de Dieu. Et parce que du coup, tous les esclavages seront abolis et tout le monde pourra rentrer. Tout le monde pourra aussi ne pas rentrer, mais tout le monde pourra rentrer en masse dans la Jérusalem pacifique de la paix, produisant la paix éternelle, dans toutes les paix éternelles se multipliant autant de fois qu'il y a de mouvements à l'intérieur de la création pour l'introduire dans le mouvement incréé des profondeurs de l'amour unique de Dieu, l'unique volonté, le soleil éclatant de sa volonté rédemptrice pour glorifier Dieu et aussi pour le savourer. Dès cette terre, dans le règne et le royaume, en sa toute puissance, la première résurrection dont nous parle le Saint-Esprit dans saint Paul aux Thessaloniciens est de se réaliser dans l'Église et dans l'histoire de l'Église et dans le temps de l'Église de la terre. C'est ce qu'on appelle le sixième sceau de l'Apocalypse. Mais entre le cinquième sceau de l'Apocalypse et le sixième sceau de l'Apocalypse, il y a une transformation à faire de notre corps originel, de notre conception, dans le corps, dans la matière vivante, du oui libre qui est le nôtre à l'image ressemblante de Dieu. Il faut la visitation, il faut pénétrer, reprendre possession, comme disait le pape Jean-Paul II, pleine possession de soi dans le corps originel et dans la signification sponsale du corps de l'homme, de la femme. J'ai honte de le dire. La signification sponsale du corps et de la femme n'a rien à voir avec les organes. La sponsalité, elle est dans le principe du corps primordial et inscrit dans le livre de la vie. Il n'a rien à voir avec cette espèce de d'abomination, d'inversion sponsale qu'est l'époque constitue tous les adorateurs du porno crétin, de la libéralisation de tout ce qui n'est pas sponsalité. La sponsalité, elle est virginale substantiellement. Et c'est vrai, aujourd'hui, on a été... j'ai pas envie d'en parler, mais enfin, on peut le dire quand même. Mais quand même, on est quand même... l'humanité s'est fait séduire quand même. Avec cette vision de la liberté antisponsale, c'est-à-dire sexuelle. J'ai le droit de faire de ma vie ce que je veux. Non, t'as pas le droit. T'as pas le droit de créer l'enfer éternel. T'as pas le droit. C'est pas un droit. Le serpent a dit ça, mais fais-le quand même. T'as pas le droit, mais fais-le quand même. Et il t'arrivera rien. Il t'arrivera rien. Tu vas voir ce qui va se passer dans les semaines qui viennent si t'avais pas le droit. Ou si tu avais le droit. Eh bien, c'est que pour nous, le malheur n'est pas un malheur. Ce que dit l'Apocalypse, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Cette parole de la messagère, hein, glorifiée, engendrant la paix de la Jérusalem pour la cause méritoire, hein, de la résurrection dans l'histoire de l'Église qui va être la nôtre. C'est une bonne nouvelle. C'est comme ça que ça commence, la salette. Message de la salette. Malheur. 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 Dans l'Apocalypse, on parle de la salette, vous voyez. Aux habitants de la terre. C'est une bonne nouvelle que la liberté de l'innocence divine dans le oui. De l'Immaculée Conception soit redonnée et retrouvée. C'est un bonheur. Mais ceux qui sont attachés à la terre, ils redoutent ce qui va se passer. Il va y avoir la famine. Hein, regardez les quatre premiers sauts de l'Apocalypse. Il va y avoir le cheval rouge, la guerre. Il va y avoir le cheval noir, la mort. Le cheval vert, la famine. Il va y avoir tout ça. Heureusement. Heureusement. Marie était au pied de la croix avec Jean, dans l'union incarnée avec Joseph. Et il disait oui, heureusement. 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 Heureux les pauvres. Heureux la pacification. Heureux les instruments de la paix éternelle. Heureux les miséricordieux. Heureux les persécutés pour la justice, ils seront rassasiés, désaltérés, dans une joie imprenable, inscrits dans l'éternité, au-dessus de la résurrection, au-dessus de l'incarnation. Les quatre vivants et les 24 vieillards se prosternent pour entrer dans le trône, et nous nous sommes emportés. Désormais, dans la grâce qui est donnée à l'Église, d'aujourd'hui pour demain et après-demain, nous sommes emportés hors de ce monde cosmique. Ex tout cosmo était péri, tout renouveau, c'est-à-dire que vous êtes péri, vous êtes à l'intérieur, et vous enveloppez en même temps le trône qui est au-dessus du mystère de l'incarnation et du mystère de la résurrection. Et celui qui est sur le trône, c'est le Dieu, consubstantiel au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Et nous nous sommes introduits. C'est notre allégresse, c'est notre paix, c'est notre joie, c'est notre mission. C'est notre bonheur. Et c'est la bonne nouvelle d'aujourd'hui. Parce que plus on voit que le monde temporel est pris... posséder par les antéchrists et ceux qui sont librement, hein, complètement engagés dans l'admirable exercice de la destruction du véritable Israël de Dieu, c'est-à-dire la France. C'est une chose qui pour nous est une bonne nouvelle, parce que l'ouverture des temps va pouvoir faire rentrer Dieu dans sa gloire à l'intérieur de nous, et à l'intérieur de nous une grâce méritoire pour la pacification éternelle du monde dès cette terre. C'est pour ça qu'on ne cherche absolument pas à vivre en sécurité sur la terre. C'est pas du tout notre grâce. La grâce, c'est... elle est méritoire. Et il vaut mieux, le pape nous vient de dire ça au début, ben oui, le souffle qui fait vivre notre cœur, c'est le souffle de la résurrection, c'est le souffle de Jésus sur la croix. Ce souffle, c'est l'Esprit Saint. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille, parce que nous vivons la résurrection en vivant du Saint-Esprit. Et du tout, du coup, la résurrection nous accompagne continuellement. Et elle surabonde de nous par... Et fait de nous des instruments d'une grâce méritoire de la parousie, c'est-à-dire de l'anéantissement des puissances du mal sur la terre par le feu. Ce n'est une mauvaise nouvelle que pour ceux qui ont des appartements immobiliers près du palais Bourbon, hein. Et Marie, c'est la violette. Joseph, c'est la violette et le lys. Leur indispensable, c'est la violette, le lys et la rose. Et ce qui y pénètre, c'est le jasmin. Ce parfum qui est le nôtre nous fait apparaître et disparaître quand Dieu veut, tout en restant sur la terre. La Jérusalem qui est la nôtre, dont nous sommes les membres vivants, cette Jérusalem-là ne peut pas être vue par le démon et par les faux-fileurs. Les anéantisseurs de l'Église sont complètement désarmés, parce que l'innocence divine crucifiée triomphante qui sera la nôtre dans le corps spirituel retrouvé venu d'en haut, dans notre corps originel et notre... Chaque pas que nous ferons sur la terre est dans une profondeur tellement grande qu'elle échappe et aux démons et aux instruments humains du démon. Dans la croix glorieuse, nous l'entendons ça. N'ayez pas peur. Ouvrez toutes grandes vos portes, Église. Moi, j'ai vécu pendant des années et des années de la Santissima Bambina qui avait pleuré, envoyée par le pape Saint Pitis. Elle avait pleuré, puis elle avait exhalé ses parfums pendant 50 ans. Elle a vécu. Moi, je l'ai eu dans mon ermitage pendant un an. Et elle avait dit à la petite... instrument, disons, hein, mais envoyé par le Saint-Père, quand même. Elle avait dit, dites seulement avec moi, au moment où je suis conçu, au moment où je suis né, et donc entre les deux, dites avec moi, je vous salue, Marie, violette d'humilité.
D'humilité.
Fille bien-aimée du Père, dites-le, je vous salue Marie, lys de pureté, mère bien-aimée de l'épousé du Fils. Dites-le, comme moi de ma conception jusqu'à ma naissance, je vous salue Marie, rose de la charité, épousée du Saint-Esprit. C'est ça la plénitude de grâce, pleine de grâce. Dites-le, Et vous ferez exhaler à ce moment-là le jasmin de mes larmes, à ma naissance. Et ça, c'est le monde nouveau. Vous voyez, on dit quelquefois, si vous voulez échapper aux maladies, aux trucs, mais vite cueillez des violettes, des pétales de rose, etc. Attends. Oui, d'accord. Je suis pas contre. Mais la violette véritable, la rose véritable, lys véritable, le jasmin véritable, c'est la cause méritoire de ceux qui font exhaler à l'intérieur de leur corps originel, dès maintenant, le don que Dieu fait à la cause méritoire de ceux qui persévèrent dans le monde nouveau mis en place, institué par le Saint-Père, la Sainte Famille, l'Eucharistie. Et la doctrine infaillible, apostolique. Vous savez ce qu'il a dit le Saint-Père récemment? Ah, moi je l'aime bien, hein. Parce qu'il fait semblant de... Voilà, haïssez-moi s'il vous plaît, vous les chrétiens, vous pourriez... Non, il a dit, et alors les gens qui sont chrétiens, bobos quoi, les bobos chrétiens, les chrétiens bobos. Ah, hein. Voilà. Macron, il vote pour Macron, mais pour lui, c'est... Il a dit, voilà, le couronnement apostolique de tout, des paroles, la bonne nouvelle apostolique et infaillible des apôtres, des successeurs des apôtres, de tous les papes, c'est Saint-Joseph. C'est Saint-Joseph. Saint-Joseph, c'est la super éminence apostolique silencieuse qui est au-dessus de l'infaillibilité apostolique de toute l'Église. Lui, dans son humilité, il répète ce que disaient les précédents papes, hein. C'est parce que cette parole elle est dans l'encyclique du pape Pie IX sur Saint Joseph. La super éminence apostolique silencieuse qui couronne l'infaillibilité de l'Église, c'est Saint Joseph. Même si ça fait un peu long comme méditation, c'est pas grave. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le caractère pontifical, sacerdotal, royal et divin est dans Saint Joseph. Vous savez, quand le caractère on dit qu'il est indélébile, c'est que c'est un sacrement. C'est pour ça qu'il est dit que c'est le père Ollier qui dit ça, le fondateur des Sulpiciens, mais celui-ci est le porte-parole de Saint Vincent de Paul, que Saint Joseph c'est le sacrement par excellence de la substance et de l'acte pur de la nature de Dieu lui-même dans la première personne de la très sainte Trinité. C'est notre papa. C'est notre papa, transsubstantiellement, en raison, et dans la maternité divine de Marie aussi, qui n'existe pas sans ce papa-là. Et nous, nous introduisons, mais il nous est donné parce qu'il vient de la gloire de sa gloire dans notre terre, en raison du pouvoir des clés du Saint-Père qui ouvre le temps à notre introduction là. Pour pouvoir recevoir de cette fécondité le corps spirituel venu d'en haut et que nous soyons introduits, engloutis dans le caractère, c'est-à-dire la présence réelle, et c'est à nous de nous introduire dans le mariage spirituel jusqu'au sommeil mystérieux de la croix glorieuse pour lui faire donner son fruit à la terre tout entière. Voilà l'admirable exercice auquel nous sommes confrontés ces jours-ci, hein, pour dire, voilà, les hurlements du démon, les peurs, ne nous atteignent pas, mais absolument pas. C'est pas notre monde. Notre monde, c'est le monde du réel, du temps. Et l'Église est la réalité du temps, de la terre, des hommes. La résurrection et le Saint-Esprit, c'est évidemment dans notre chair et dans notre vie méritoire chrétienne catholique, beaucoup plus réel que les hurlements d'un petit chiot, d'un roquet. Même s'il prétend gouverner le nouvel Israël de Dieu par le mensonge, par la diablerie, par le satanisme, par le sacrifice aux quatre puissances de l'enfer, quatre bêtes, dont je ne prononcerai pas le nom, parce que je m'en fiche. Dans le sang de Jésus, nous pouvons, nous devons, nous, continuellement, faire l'exorcisme à la demande des deux, à la demande presque silencieuse de Saint Joseph et de Marie dans le sacerdoce joannique nouveau. L'exorcisme, on peut le faire, l'exorcisme, le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus et je fais pénétrer le sang de Jésus dans tout ce qui existe. Dans tout ce qui existe. Dans la conception de tout ce qui a été conçu. Dans chacun. Et dans tous en même temps. Dans chaque élément de matière non encore transformé par la créature de Dieu en une réalité naturelle nouvelle. Je mets le sang de Jésus là. J'ai tout pouvoir d'exorcisme. En raison du pouvoir du monde nouveau pour les enfants du monde nouveau, établi et mis en place par le Saint-Père. On peut s'associer à Saint-Michel-Archange, je suis tout à fait d'accord. Pourquoi ? Parce que la vastitude intérieure de Saint-Michel-Archange permet de pénétrer le monde de la résurrection et du monde de la résurrection. Ce que le monde de la résurrection enveloppe, c'est-à-dire qu'on somme de notre univers, est pénétré et rayonné, c'est sûr, pour humilier ceux qui ont mis leur confiance dans le sang de Moloch. Et leur humiliation, c'est qu'ils n'ont aucun pouvoir sur l'Église. Aucun pouvoir sur les enfants de Dieu. Aucun pouvoir sur ce qui est à l'intérieur de l'autel. Sur l'innocence divine crucifiée des enfants. Aucun pouvoir sur eux. Puisqu'ils sont les instruments de la première résurrection du sixième sceau. Et de l'Église des mille ans de l'Apocalypse proclamée par le Saint-Père, par Saint-Irénée, docteur de l'Église depuis 3 mois et demi. Et la deuxième chose qu'il faut faire, qu'il faut prendre à faire, si moi j'y arrive pas, bon, c'est un mot d'ordre. Celui qui dit Ave Maria Stella tous les jours ne sera pas atteint dans son corps par quelconque agression des ennemis de Dieu ou de qui que ce soit. Dans la guerre, la famine et la haine universelle. Troisième mot d'ordre. Celui qui est attaché encore à des choses de la terre qui disent le psaume 90 pour s'en détacher ce jour-là. Quatrième mot d'ordre. Tu feras des actes de foi, d'espérance et de charité surnaturelle, divine, méritoire, accomplie, en plénitude. Comment est-ce qu'on fait un acte de foi? Je le dis parce que c'est un oubli fâcheux. Il y a des formules, vous savez, que l'Église a annoncées pour qu'elles soient efficaces par elle-même. Acte de foi, mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez enseignées. C'est Jésus, dans notre Seigneur Jésus-Christ et par votre Sainte Église, parce que vous ne pouvez ni vous tromper ni nous tromper. Et si je dis ça intérieurement, surnaturellement, je produis une lumière surnaturelle qui pénètre l'âme des enfants que j'adopte, qui sont dans l'autel, en attendant que je vienne prononcer l'acte de foi et envahir ces âmes-là de la lumière c'est naturelle, de la foi qui les justifie dans l'Église de la Jérusalem nouvelle. Je vais faire des actes, il faut savoir par cœur quand même. Moi je connais des gens qui sont catholiques, qui ne connaissent pas par cœur l'acte de foi. L'acte d'espérance, vous connaissez l'acte d'espérance? Mon Dieu, c'est inouï de savoir qu'il y a des catholiques qui ne connaissent pas l'acte théologal. Révélé par l'Église, ça ne date pas d'aujourd'hui. Acte d'espérance, moi on me l'a appris quand j'avais 4 ans, 5 ans. Acte d'espérance, mon Dieu, j'espère, avec une totale confiance, avec une ferme confiance, que vous me donnez en cet instant votre grâce en ce monde, toutes vos grâces de ce monde, toutes vos grâces de ce monde, et aussi le bonheur éternel dans l'autre monde. Et aujourd'hui, on vous rajoute. Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnez en cet instant votre grâce en ce monde, toutes les grâces de ce monde et les grâces de la Jérusalem, nouvelle et immaculée, qui apparaît devant nous, et le bonheur éternel dans l'autre. Et tu le dis, et ça se fait. Tu n'as pas la grâce comme ça en disant voilà, ah oui, j'ai la grâce, moi je crois, j'ai fait des pèlerinages. Et on va faire des actes de charité aussi. Hein, c'est le cinquième mot d'ordre. Il faut faire, voilà, cinquième mot d'ordre. Faire des actes de charité, mais des actes de charité incarnés, sublimes, surnaturels, divins, dans la plénitude de la divinité, d'amour. Et comment est-ce qu'on fait un acte de charité? Eh bien, il y a une prière qui réalise ce qu'elle signifie en raison d'après la proclamation infaillible de l'Église. Quand même, hein. Dans le couronnement, c'est Saint Joseph dans son silence apostolique. Allez, je vais vous le dire, parce que je suis sûr qu'il y a certains qui ne connaissent plus l'acte de charité. Mon Dieu, je vous aime de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, ça c'est le corps, de toutes mes forces, de tout mon esprit, c'est pas la même chose. Et j'aime celui qui m'est proche, c'est Jésus, comme moi-même, parce que je vous aime, parce que le plus proche, c'est Jésus. Et j'aime mon prochain comme moi-même, parce que je vous aime. Cinquième donc directive dans ces jours-ci pour prendre le chemin qui passe au-dessus du Sikutsi, mais même de l'abîme, de la dévastation que nous méritons pénétrer sur nos têtes et dans notre chair, mais nous marchons sur le fil merveilleux de Jésus ressuscité et du Saint-Esprit. Cette route, cette ligne pure, de sorte que tout le mal qui s'approche de nous s'efface de la terre, disparaît de notre terre. C'est le monde nouveau. Bon, je demande pardon pour ceux qui n'ont pas le temps d'écouter des méditations, parce que c'est un peu long, mais je crois que dans le temps d'aujourd'hui, dans ce qui vient de se passer et ce qui va se passer, ce serait pas bien de ne rien dire.